Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour. La forme ce matin, alors j'ai un tout petit peu de retard, je vous demande quelques secondes. Il faut que j'ouvre les tipeurs. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, Tipeee. J'espère que vous allez bien ce matin. Ah merde, attendez, c'est pas la bonne adresse. Dur de faire deux choses en même temps. Tableau de bord. Ah merde, il me faut mes codes. Yep, un petit peu à la bourre ce matin, désolé. Hop, identifié, c'est bon, tableau de bord. Et c'est 271 à 275. Faut que je scrolle. Hop, hop. Enfin non, hélas, si c'était un scroll, ça irait plus vite. Mais il faut que je change. Ça commence à faire beaucoup de tipeurs là. Ça commence à faire du monde. On n'y est pas. Hop, voilà. On va pouvoir remercier nos tipeurs du jour. Ça y est, j'ai la page. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Guillaume, j'aimerais remercier Eddy, Dnomia, Franchement, vous m'aidez pas. Nomiar, on va dire. Philippe et Notka. Notka, merci beaucoup de votre contribution sur Tipeee. Grâce à vous, je suis là ce matin. Sans vous, je ne serais pas là. Voilà ce que donnerait TechScope sans les tipeurs. Juste un bout d'épaule. Donc, on peut tous les remercier de contribuer à la vie de la chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Makelga, salut Samuel, salut tout le monde. De quoi on va parler ce matin dans TechScope? Vous vous demandez bien, eh bien moi aussi, le temps que j'ouvre mon sommaire. Là là là. Eh bien, on va commencer, on va revenir un petit peu. On va dire que l'histoire de Logan Paul sur YouTube est l'épiphénomène d'un problème beaucoup plus grave qu'à YouTube, qui s'est fait surtout en cette année 2017 et qui fait qu'effectivement 2018, il y a beaucoup d'attentes sur le devenir de YouTube. Et on se demande un peu où tout ça va. Donc on reviendra pas forcément sur l'histoire de Logan Paul parce qu'on a vite fait le tour de cette connerie, mais plutôt des symptômes du diagnostic que ça permet de faire sur YouTube et sur son futur. On parlera ensuite de bien sûr de la faille de sécurité dans les processeurs Intel, une faille de sécurité de 10 ans qui remonterait sur l'ensemble des processeurs Intel. C'était une faille hardware donc grave. Bien. On reparlera effectivement de cette faille, mais on parlera également qu'Intel a eu une réaction officielle et qu'il ne veut pas plonger tout seul. Et il mouille également AMD et ARM en disant, bah vous aussi, vos processeurs ont ce problème, les gars. Hein, je ne tomberai pas tout seul. On fera le point sur cette affaire. On parlera également un article de fond, mais très intéressant, comment les capteurs photo ont sauvé Sony. Comment Sony, effectivement, en s'engouffrant et en devenant leader absolu des puces qui sont des capteurs photo, comment ça les a sauvés et quel changement de culture hyper profond ça a engendré chez Sony. On parlera également, en plus dans les news, des discours haineux en Allemagne. Une loi est passée, les réseaux sociaux risquent maintenant 50 millions d'euros d'amende. Pour propagation de discours haineux. On verra que ça ne fait pas que des heureux, cette nouvelle loi. On parlera également, c'est une rumeur, pas mal d'articles commencent à le confirmer ce matin. A priori, la prochaine grosse rentrée en bourse dans le monde de la tech, ça serait Spotify. Spotify est en train, effectivement, de préparer, a priori, son IPO. On parlera également, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé pendant les fêtes de Noël, et déjà comment Amazon et Google, en vendant des enceintes, salut Vertige, en vendant des enceintes vraiment pas chères, des haut-parleurs intelligents vraiment pas chers, sont en train de couper l'herbe sous le pied d'Apple, hein, qui va avoir bien du mal à vendre ses haut-parleurs très très chers. Et on terminera justement sur une petite news de Noël. On a des chiffres. En fait, c'est une analyse, hein, toujours, hein, Fleury Analytics, qui dit que les iPhones ont été la star de Noël, en termes de smartphones en tout cas. Une grosse, grosse avance des smartphones sur les ventes de Noël, puisqu'ils auraient 44% des activations. Ça serait des iPhones, mais peut-être pas les iPhones que vous croyez. On reviendra là-dessus en fin d'émission. Voilà pour mon sommaire. Mi-dodu. On a déjà eu plus dodu, on a déjà eu plus maigre. On va dire moyenne, quoi. Est-ce que vous allez bien, la chatroom? Mais non, Apple a ses fans. Oui, il n'y a que des fans Apple qui achètent des iPhones. Ça fait une belle armée. Merci en tout cas, Samuel, de relayer toutes les informations, comme un lundi. Ouais, t'as raison. On a un peu... Avec ces semaines où il manque un jour, là, ou deux jours, ou machin, je ne sais plus où j'en suis. Je vous jure que c'est très compliqué pour moi pour gérer ces semaines-là, parce qu'il faut quand même sortir une à deux vidéos par semaine. Si tout se passe bien, je devrais vous en... on devrait en sortir deux cette semaine. En fait, trois, mais il y en a une, c'est une vidéo utilitaire. Donc, ce n'est pas vraiment une vidéo. On est en train de travailler dessus, donc ça devrait arriver vers la fin de la semaine. Une seule solution, Asana. Ouais, le problème de tous ces trucs pour gérer le temps, c'est que ça prend du temps pour écrire dedans, donc tu gères pas forcément ton temps. Mais non, mais Asana, était, je l'ai utilisé longtemps, pendant une époque, c'était pas mal. Je peux pas, ça vaudrait le coup maintenant. Yep. Ouais, la vidéo des 100K, oui, il faut que je la prépare. Test de l'Instax, non, on n'y est pas du tout. Non, normalement, cette semaine, je devrais sortir une vidéo que beaucoup, beaucoup attendaient. Un test très complet, mi-test, mi-tuto de MindNode 5. La nouvelle application de MindNode, enfin la nouvelle version de MindNode, c'est ce qui devrait sortir cette semaine. En tout cas, je l'ai tourné hier. Bon, il reste pas mal de plans d'illustrations à tourner, mais j'espère qu'on y arrivera en fin de semaine. Voilà, voilà. Allez, on rentre dans les articles. Si vous êtes bien d'accord, on va parler effectivement du problème de, de YouTube. Problème dont, on va dire, le dernier scandale en date. Je pense que vous êtes tous au courant, on en a parlé lundi dans TechScope, ce qui est arrivé avec Logan Paul et sa vidéo, qui maintenant, il l'a enlevé de YouTube, mais qui a fait quand même 6 millions de vues, dans laquelle on voyait un cadavre pendu dans une forêt japonaise. Bref, je ne vous refais pas toute l'histoire. Ce qui est à la fois intéressant, inquiétant avec toutes ces histoires, c'est que bien évidemment, même si celle-ci a des proportions énormes, hein, là c'est vraiment un sac de merde qui explose à la face de YouTube, on s'aperçoit que YouTube commence à engendrer ce type de monstre et que leur responsabilité est grande dans ces histoires. C'est-à-dire que si on revient spécifiquement sur le cas de Logan Paul, il faut savoir quand même que Logan Paul fait partie des plus gros YouTubeurs au monde, qu'il participe dans deux émissions que finance YouTube à travers son programme YouTube Red, qui donne du contenu exclusif, qu'il est à peu près évident que YouTube a vu la vidéo avant qu'elle ne sorte. Le problème qu'elle ait été monétisée ou pas n'est même pas un problème, dans, en tout cas dans l'angle que j'aborde. Le problème, c'est que on l'a vu avec les histoires de PewDiePie, on l'a vu avec les vidéos pour enfants avec du contenu scabreux. Aujourd'hui, YouTube a une équation qui est très difficile à résoudre. D'un côté, et c'est la pierre angulaire qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est quand même là où rentre l'argent dans YouTube. Vous le savez que YouTube coûte très très cher. Ça coûte très cher de faire un YouTube. Et il y a les serveurs, il y a la bande passante. Ça coûte extrêmement cher. Donc le levier de rentabilité, on sait que pendant énormément d'années, YouTube n'a pas été rentable. Le levier, c'est les annonceurs, c'est la publicité. Ça, c'est le premier problème qu'ils ont à résoudre comment faire pour attirer des annonceurs sur la plateforme. La deuxième partie de l'équation, c'est comment avoir des créateurs de contenu qui ne font pas partie de l'entreprise. N'oublions pas que YouTube ne fait de l'argent qu'avec des créateurs de contenu qu'ils ne payent pas directement. Les créateurs de contenu ne sont pas des employés de YouTube. Comment faire pour avoir des grosses audiences pour, du coup, plaire aux annonceurs? Et comment construire ces algorithmes pour que les vidéos soient vues par un maximum de personnes? Et d'un autre côté, vous avez les problèmes effectivement moraux, la censure, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, et le pendant de ça, la liberté d'expression. Aujourd'hui, 2017 a été l'anus horribilis, hein, pour paraphraser la reine d'Angleterre, pour YouTube, qui s'est retrouvé avec les pires des situations. Effectivement, une partie du contenu, on le savait, sur YouTube, était répréhensible. Quelques scandales, et notamment des vidéos haineuses et des vidéos scabreuses, des annonceurs se sont aperçus que leur publicité était devant et ont décidé de couper la publicité. YouTube a dit « Ok, on renforce l'attribution des publicités, d'où, et ça vous en avez entendu parler de la part des YouTubeurs, aujourd'hui la plupart, et moi mes vidéos sont généralement démonétisées pendant une journée, et souvent c'est la première journée de publication, démonétisées pour contrôle. Du coup, voilà, YouTube a mis en place un système en disant aux annonceurs, vous inquiétez pas, on va checker les vidéos avant que vos annonces soient devant, mais du coup, ils se retrouvent face à un backlash des créateurs de contenu qui disent « Vous êtes bien gentils à nous enlever la monétisation de nos vidéos, mais vous faites ça dès le début. » Et le début, pour la plupart des YouTubeurs, c'est là où une vidéo génère le plus d'argent. Et que, mine de rien, on ne va pas parler des YouTubeurs qui s'enrichissent, je vous parle déjà des YouTubeurs qui en vivent. Il y a une nuance, hein. Et généralement, il y a une grosse marge de nuance entre ceux qui en vivent et qui essayent d'en vivre et ceux qui s'enrichissent, qui sont très très riches, qui sont des épiphénomènes. Ajoutez à ça le fait que effectivement aujourd'hui, et on ne peut que le constater, la meilleure manière de réussir sur YouTube rapidement et faire des gros chiffres sur YouTube, c'est deux choses. C'est prendre conscience que l'audience de YouTube a entre 8 et 13 ans, en tout cas l'audience la plus puissante de YouTube, et certainement la plus grosse dans les chiffres, a entre 8 et 13 ans. Et c'est une masse énorme. C'est une masse énorme d'audience. Et la deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les algorithmes de YouTube favorisent quand même tout ce qui est sensationnaliste. Le sensationnalisme. Mais quelque part, on ne va pas tout mettre sur le dos de YouTube, c'est le problème du web en général aujourd'hui. Avec du putaclic, en faisant du sensationnalisme, en faisant du facile à cliquer, en faisant appel aux plus bas instincts humains, on fait les plus gros chiffres. Quelque part, ce n'est même pas le problème du web, on pourrait dire que c'est le problème de l'humanité. C'est-à-dire que nous, pauvres humains, on va toujours avoir tendance à plus facilement cliquer sur un contenu qui excite nos plus bas instincts, qui sont voilà, le voyeurisme, l'humiliation de l'autre, ce genre de choses. Franchement, vous avez beau dire le contraire, la plupart d'entre nous et la plupart du temps, et moi le premier, hein, je me mets dans le sac, il m'arrive encore aujourd'hui, et pourtant je me dis à chaque fois que je le fais, je dis « Jérôme, une vue, c'est un vote. Tu ne regardes pas ce contenu-là. » Il faudrait se dire ça tout le temps. N'oubliez pas, une vue, un vote. Si vous regardez un article vous annonçant les 10 pires cellulites d'Hollywood ou « J'ai trouvé un cadavre dans une forêt au Japon », vous participez au problème. Parce qu'on est bien d'accord que si nous ne cliquions pas sur ce type de contenu, voilà, une chute dans une vidéo du DJI Phantom, si on ne cliquait pas sur ce type de contenu, ben, ils n'en produiraient pas. Enfin, c'est l'œuf et la poule. Certains pourraient me dire oui, mais c'est parce qu'ils le produisent qu'on clique dessus. Non, vraiment, je pense que ces mecs-là, vraiment, hein, Logan Paul et d'autres, ont très bien compris comment fonctionnait la société. Oui, bah, par exemple, de cliquer sur un YouTuber qui met comme titre pour un simple test de jeu vidéo « J'ai nuqué Gandhi », c'est quand même très, très limite. On est bien d'accord. Mais, mine de rien, vous voyez, c'est une expérience. Voilà, Civilization, c'est pas non plus un jeu énorme, en plus juste sur iPad. Je sais pas, mais si j'avais juste sorti la vidéo en mettant « Test de Civilization 6 sur iPad », je pense que j'aurais eu deux fois moins de vues. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le gros problème de YouTube, c'est effectivement cette fameuse équation qui est très, très difficile à résoudre, qui effectivement passera obligatoirement par des méthodes beaucoup plus efficaces de contrôle de son contenu. Mais attention, on l'a bien vu, en contrôlant trop le contenu, ils font aussi des dérapages. On a vu un certain nombre de contenus qui étaient intéressants ou bien faits, et on le voit tous les jours chez les YouTubeurs, des contenus qui sont bloqués alors que franchement, il n'y a rien de très grave. Et comment un mec pendu dans une forêt au Japon, où on voyait l'image, même s'il avait bleuré le visage, mais on voyait la situation, a pu passer, c'est peut-être là le truc le plus choquant. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire, il est impossible que YouTube ne l'ait pas vu avant qu'elle soit sortie, cette vidéo. Quand même, enfin, Logan Paul est un des plus gros YouTubeurs au monde. Comment ça se fait que YouTube, on aurait du mal à comprendre que YouTube ne contrôle pas un peu plus le contenu, sachant l'impact que la moindre vidéo que ce mec sort a sur des millions, notamment de jeunes et de très jeunes. Et c'est là où, moi, je dirais, il y a un truc que je comprends pas. Mais c'est peut-être parce que je suis bête. Si quelqu'un de YouTube France veut bien me contacter pour m'expliquer, je serais ravi d'en parler dans l'émission. Mais pourquoi YouTube... Enfin, voilà. Finalement, les vidéos graves qui ont un impact négatif, c'est celles qui sont beaucoup vues. Là, il y a deux cas de figure. Soit une vidéo fait un buzz. Genre, une petite chaîne YouTube fait une vidéo qui est vachement relayée. C'est un bad buzz, le truc arrive de nulle part, on ne peut pas s'y attendre, et là j'ai envie de dire, YouTube ne peut pas faire grand-chose. La vidéo qu'on ne voit pas venir et qui fait plein de vues, YouTube ne pourra jamais faire grand-chose, parce qu'ils ne vont pas mettre un mec pour contrôler chaque vidéo qui sort. Les vidéos mettraient 2 semaines à sortir s'il y avait un contrôle humain obligatoire. Et quand on voit, comme vous n'êtes pas content quand une vidéo n'est pas à temps, si vous deviez attendre 2 semaines après la sortie d'un iPhone pour voir les premières vidéos sur l'iPhone, mais il y aurait des manifestations dans la rue. Des gens se défenestreraient. « Ah, j'ai pas eu ma vidéo !» Donc, ça, ils peuvent rien y faire. Mais par contre, et c'est là où il faut arrêter de se mentir, YouTube, tu les connais, tes gros YouTubeurs. Tu sais qu'une vidéo de PewDiePie, tu sais qu'une vidéo de Logan Paul va être énormément regardée, qu'elle aura de l'impact. Qu'elle va, et si elle a un impact négatif, tu vas être pris dans la vague. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le backlash dépasse complètement Logan Paul, dont on n'en a rien à taper à la limite, qui disparaisse dans cette vague-là. On en a presque même envie, mais bon, bref. Le problème, c'est que YouTube risque de s'en prendre plein la gueule dans cette vague. Pourquoi il n'y a pas... Ça me paraît pas hyper compliqué, sachant qu'ils ont dit qu'ils embauchaient 10 000 nouveaux contrôleurs humains pour regarder les vidéos. Ça me paraît pas impossible de checker quand même les vidéos des plus gros YouTubeurs. Ou même d'avoir un contrat spécifique avec les gros YouTubeurs. Il y aurait quand même des méthodes relativement simples, des contrats avec avocats et tout ça, parce qu'un mec comme Logan Paul, c'est une entreprise qui brasse des millions et des millions d'euros. Le mec, il a de quoi se payer un avocat. Il a un ARP, il a des mecs qui font son montage. Enfin, c'est une entreprise. Pourquoi, comme une télé, YouTube ne signe pas des contrats avec ses producteurs de contenu, dans lesquels ses producteurs de contenu s'engagent à ne pas sortir du contenu qui fait telle ou telle chose, et que si jamais ils rompent ce contenu, contrat. C'est procès public. Et au moins, YouTube dit rupture de contrat. Il a fait n'importe quoi. Ça se passe à la télé, ce mec licencié. Le truc, c'est que la télé fait exactement comme YouTube. Elle achète du contenu en dehors de ses équipes internes. Et donc, non, ça serait plus le rapport d'une télé avec des boîtes de prod. En fait, c'est ça. Il faut que ces gros YouTubeurs aient des boîtes de prod et les responsabilités d'une boîte de prod par rapport à leurs clients qui seraient YouTube. Franchement, c'est un truc qui me dépasse. Et je comprends que YouTube a dans son ADN d'être dans la liberté d'expression. Enfin, il y a un moment, d'abord, il y a des lois qui existent, il y a des choses qui sont interdites. Et une autre chaîne viendrait l'embaucher. En tout cas, la situation aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre YouTube. Donc franchement, ce n'est pas la concurrence qui leur fait peur pour l'instant. Oui, alors effectivement, il y a des différences culturelles entre tous les pays. Très honnêtement, montrer le cadavre d'un humain pendu à un arbre, je ne connais pas beaucoup de sociétés où ça ne fait pas partie des tabous culturels. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses. On peut quand même ériger des règles internationales sur ce qu'il faut montrer aux enfants ou pas montrer aux enfants, ou ce qui devrait au moins être interdit aux plus de 18 ans, au moins de 18 ans. Donc, il y a quand même des manières de fixer le truc. Mais c'est là qu'on tombe finalement sur le plus grand problème de cette histoire-là. C'est que, et on en retombe toujours à ça, aujourd'hui, l'ensemble du web favorise le contenu garbage. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si vous voulez réussir sur YouTube, faites des trucs comme ça. Faites du bad buzz, faites de la provoque. Faites des scandales, poussez le bouchon trop loin. Le sensationnalisme est aujourd'hui le meilleur moyen de se faire de l'argent très vite sur YouTube et relativement facilement. Et donc on a bon dos de dire « Oh, ce contenu de merde, oh, c'est Logan Paul, quelle bande d'ordures !» Non, c'est des mecs qui exploitent un système qui existe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas condamnable, hein. Parce que c'est justement là où la moralité d'un homme, on peut la déterminer, c'est sa capacité à résister à quelque chose qui est facile à faire. Mais aujourd'hui, voilà, faire du contenu sensationnaliste, c'est facile et ça rapporte gros. C'est aussi simple que ça. Et que, franchement, faut être un peu maso pour faire autre chose, j'ai envie de dire. Si vous faites autre chose sur YouTube... Vous créez des problèmes parce que vous n'aurez jamais autant de vues que ces mecs-là. Ça demande beaucoup plus de boulot et vous ne serez pas récompensé. Mais là, encore une fois, la responsabilité finale de tout ça, désolé, c'est mon cheval de bataille 2018, elle repose pour une grande partie sur les viewers. Les youtubeurs vont créer le contenu qui est le plus vu. Et quand je dis les viewers, je m'adresse aux 8-13 ans. C'est vrai que ce que regardent les 8-13 ans aujourd'hui conditionne ce qui marche sur YouTube. C'est le monde dans lequel on vit, c'est dans le monde dans lequel YouTube vit, et c'est vrai que ça va être le gros enjeu de YouTube en 2018. Comment ils vont faire avec cette histoire-là ? Mais vous, de votre côté, et nous tous, hein, et encore une fois, hein, je ne fais absolument pas mon juge comportementaliste, mais nous, de plus en plus, on devrait avoir une hygiène du clic et se rendre compte que ce qu'on clique, c'est ce qui marche. Et que même si on clique sur quelque chose pour le critiquer ou pour le regarder parce qu'on veut le mépriser, on lui donne une voix. Il n'y a pas de moyen de reprendre votre vue. Il n'y a pas de parents, c'est 8-13 ans. Difficile de contrôler un 8-13 ans avec sa tablette tout seul dans sa chambre, hein, ou son smartphone. Hein. Il va falloir éduquer effectivement les enfants à ce contenu, à ce gigantesque robinet de contenu qui est devenu le web. Si on pousse pas Jérôme à se réveiller le matin pour Texcope, il se réveille pas. Tu crois pas si bien dire, Quentin? L'hygiène du clic, oui, ça ferait un peu un titre de best-seller, tout à fait. Mais ouais, ça a un côté très triste. Mais peut-être que des bonnes choses en émaneront. On verra. Personnellement, j'ai l'impression de rater tout ce contenu. J'ai une hygiène du clic irréprochable. Bah écoute, je vais sortir des t-shirts. Hygiène du clic. Ouais, non, on va pas retourner à l'état sauvage. Mais justement, ne laissons pas le web retourner à l'état sauvage, ce web qui fait appel à nos plus bas instincts. Et on les a tous, ces bas instincts. Moi, le premier, hein. Si vous saviez des trucs que je clique, franchement, j'ai honte. Allez, annonceur, la petite page de publicité pour dire que on n'a pas d'annonce aujourd'hui. On est en train de remettre en place comment vont se passer les annonces. J'ai juste pas le temps de faire grand-chose en ce moment en dehors des émissions de Techscope le matin. Donc, ce genre de projets sont un peu longs à concrétiser. Je vous dis quand même une chose, pour ceux qui sont sur le Slack, Marion vous a mis une information dans Bénévole. On va être absent du 20 au 26 janvier, si je ne me trompe pas. Je suis en train de voir qui va pouvoir nous remplacer. Mais si vous vous sentez du 22 au 26, si vous vous sentez de faire un Techscope, de vous lancer, peut-être que vous êtes un créateur YouTube et que ça peut être un bon moyen pour vous de mettre en avant votre personnalité et de s'adresser à notre communauté. On est prêt à donner les clés du Techscope à quelqu'un qui voudrait se lancer. Mais quelqu'un qui voudrait se lancer, il va falloir qu'il respecte un certain... Enfin, il va falloir qu'on fasse un casting. Donc, on vous a mis les indications. Alors, c'est vrai que je les ai mis dans le Slack bénévole. Donc, il faut avoir accès au Slack. Mais les règles, c'est qu'il faut que vous nous envoyiez par mail, je le dis à ceux qui n'ont pas accès au Slack, une vidéo où vous traitez deux articles filmés avec la caméra avant de votre smartphone, afin que nous, on regarde la qualité éditoriale de ce que vous avez choisi comme article. Donc, vous prenez des articles genre de cette semaine. La qualité de votre micro, de votre lumière, de votre image. Vous faites comme s'il y avait une chatroom. Enfin, à la limite, vous nous imitez pour qu'on puisse faire ce casting. C'est pas évident qu'on ait un remplaçant hein, le 22 ou 26, parce que là, c'est vrai qu'on s'y prend un peu tard pour faire ce casting. Mais on va dire que ça va courir sur toute l'année. Si, voilà, on cherche la nouvelle star de Techscope, quelqu'un qui, déjà, pendant nos périodes d'absence, pourrait effectivement faire des Techscopes. Je vous rappelle que même si le chiffre est symbolique, on pourra payer, mais bon, après, je vous le dis tout de suite, c'est symbolique. Mais voilà, il sera rémunéré pour faire les Techscopes. Oh, ben non, fais pas une connerie. Je suis sûr que Vertige, tu pourrais faire un très bon Techscope. Ce serait bien d'ailleurs que des filles nous envoient des candidatures. Voilà, donc sachez-le. Si vous voulez faire un super chat, c'est plus simple. Merci Pascal M pour ton super chat. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, oui, enfin, non, mais Guy, ça, moi je suis en train de voir, effectivement, bien évidemment, il faut que je, mais je ne l'ai toujours pas contacté. Il faut que je demande si Guy il est dispo. De toute façon, comme on est absent 5 jours, je crois. Il y a plusieurs Techscopes, donc on peut avoir une personne un jour, une autre personne un autre jour. Voilà. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs à pousser hein, des gens à le faire. Hein. Et vous pouvez pousser des gens à le faire en votant pour eux, en disant vas-y, lance-toi. Et à la limite, c'est peut-être pas mal qu'on s'y prenne au dernier moment, parce que ça permettra de voir de votre réactivité. Prenez votre smartphone, vous le posez devant vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro, hein, si vous avez un smartphone avec un micro interne pas trop mal. Vous choisissez deux articles, vous nous les présentez comme s'il y avait chaton, vous nous envoyez ça par mail et nous, on verra si effectivement on peut donner les clés. C'est évidemment, si on a commencé à le faire sur le Slack et qu'on ne l'a pas donné à tout le monde, c'est que vous réalisez bien qu'il y a une question de confiance. On vous donne quand même les clés d'une émission. Pour l'instant, on commence plutôt par les gens qu'on connaît, quoi. Un volontaire désigné d'office. Bon, qui parle anglais? Moi, monsieur. Ok, bah tu vas présenter TechScope. Tu peux éventuellement mettre un faux bouc et une paire de lunettes. Ah non, non, on veut des personnalités qui s'assument, pas des gens qui se cachent derrière un déguisement. N'importe quoi. Allez, on continue, Jérôme, il est 8h32. Tu fais n'importe quoi ce matin. On va parler de la faille de sécurité dans les processeurs Intel. Ça inquiète tout le monde. Vous n'en avez pas dormi de la nuit. Nos ordinateurs sont vulnérables de manière hardware depuis plus de 10 ans dans les processeurs. Donc, c'est un problème extrêmement grave qui risque de ralentir nos ordinateurs jusqu'à 30% de vitesse. Alors, tout ça est à apprendre avec pas mal de pincettes. La vérité là-dedans. Alors, honnêtement, j'ai pas tout compris. Sur le problème lui-même, il y a des histoires de kernel, hein, c'est le noyau. J'essaie de vous lire parce que moi, j'ai pas tout compris. Pour résumer, la faille permet d'accéder dans la mémoire aux emplacements réservés au kernel, le noyau qui communique directement avec le processeur. Ces données utilisées à un très bas niveau ne peuvent pas être chiffrées, alors qu'elles sont pourtant très sensibles. Si vous saisissez un mot de passe, par exemple, il se retrouve à un moment ou un autre dans cette mémoire, lisible par n'importe qui pouvant y accéder. Pour protéger ces données sensibles, le plus simple est de les séparer totalement des informations utilisées par le système d'exploitation, ces dernières pouvant être protégées par un chiffrement. Cette pratique a un inconvénient toutefois. À chaque fois que le processeur doit intervenir, il y a une série d'opérations supplémentaires pour passer de l'espace mémoire user, celui du système d'exploitation, à l'espace kernel, celui du noyau. C'est bon, vous suivez, hein, là, jusque-là. Pour améliorer les performances, tous les systèmes utilisent une deuxième solution, un seul espace pour les deux, mais avec une distribution aléatoire des données réservées au noyau. Même s'il est théoriquement possible d'accéder aux données kernel depuis le système d'exploitation, leur positionnement aléatoire empêche concrètement tout accès à une utilisation malveillante. Pour une raison qu'on ignore encore, cette mesure de protection n'est pas fiable sur les processeurs Intel produits depuis ces 10 dernières années. Les chercheurs en sécurité autrichiens ont prouvé en octobre dernier qu'un programme malveillant pouvait deviner où les données kernel étaient stockées, ce qui permet ensuite d'y accéder et potentiellement de les exploiter. Voilà le problème. Vous avez tout compris, hein ? Kernel. Et la nouvelle du jour, parce que ça, c'était la nouvelle d'hier, c'est que Intel a dit « Ok, on a un problème, c'est la merde, mais il n'y a pas que nous, hein. Si on plonge, on ne plongera pas tout seul, parce que nos petits copains d'AMD et ARM, c'est les mêmes problèmes. Donc tous les processeurs, en gros, de ces 10 dernières années, ont ce problème-là. Les processeurs de smartphones, on ne sait pas d'ailleurs, peut-être que, à mon avis, ça... Ils vont tester tout de suite, à mon avis, les puces AX d'Apple, savoir s'ils ont ce problème-là aussi. Donc, en gros, tout le monde a ce problème. C'est la merde. Ils ont quand même aussi précisé, Intel, après, on est libre de les croire ou pas. Ouais, ça fait un peu... OK, on est dans la merde, les gars. Bon, allez, on emmène tout le monde avec nous. On emmène tout le marché, toute l'industrie. On les emmène avec nous, là. On ne veut pas tomber tout seul. Kernel dans ton froc. Alors, Intel précise quand même que c'est des failles. C'est une faille qui impactera, en tout cas la correction de la faille, n'impactera pas la plupart des ordinateurs en termes de performance. Ce qu'on aimerait qu'ils précisent, c'est ça veut dire quoi la plupart ? En tout cas, la plupart des utilisations d'un ordinateur. On sait notamment que le chiffre qui a été balancé hier d'une perte de performance de 30%, et ça concerne pas beaucoup de manips sur ordinateur. Ce serait plus de l'ordre d'une perte de performance de 5%. Pourquoi il y aura une perte de performance globalement? C'est parce que puisque c'est un problème hardware, il va falloir patcher ça avec du software, donc impliquant une utilisation des ressources du processeur supplémentaire. Il faut savoir qu'effectivement, Apple a annoncé que iSierra était déjà patché dans iSierra pour ce problème-là. Donc passer à iSierra si c'est pas fait et que les autres ça va arriver très très vite. Je sais que notamment parce qu'on a des grosses craintes au niveau des serveurs, OVH a dit hier qu'ils allaient patcher là très très rapidement tous leurs serveurs ou si ce n'est déjà fait. Oui, le problème est assez sérieux parce qu'avec une simple page web et du JavaScript, on pourrait lire les mots de passe qui sont contenus dans ton password manager Firefox. Oui, oui. Non, non, mais la faille est assez importante. Certains disent que c'est d'autant plus scandaleux qu'elle était connue depuis un certain temps. Un tel dit, non, mais on allait le dire. Ah, manque de peau, d'autres l'ont dit juste avant vous. En tout cas, ça plonge l'ensemble de l'industrie dans un gros problème. Alors, effectivement, Damien, le problème est assez sérieux. D'après moi, ce que j'ai lu, il faut quand même être un bon pour y arriver. C'est assez compliqué quand même. Gestion de communication de crise de merde. Oui, un petit peu quand même. On peut dire ça, Grégory, effectivement. Mais ça ne serait pas donné. Alors, pour des raisons de sécurité, justement, ils ne nous expliquent pas trop ce qui se passe. Le problème, c'est que s'ils nous expliquaient, c'est donner des indices et donner des idées à des hackers. Donc, on ne sait pas tout ce qui se trame derrière, justement, la méthodologie. Ils ne vont évidemment pas nous dire... Alors, regardez, la faille, elle est là. Hein, bah, vous la voyez bien, on essaie de la colmater. Bon, le temps de la colmater, tout le monde se rentre dedans, quoi. Donc, on parle effectivement d'une faille assez sérieuse en termes de sécurité. Moi, ce que j'ai entendu, hein, c'est que, oui, elle est très sérieuse en termes de sécurité. Par contre, l'exploiter, il faut être un bon, quoi. Et c'est pas juste, effectivement, un petit script en JavaScript. Mais... c'est peut-être ça résulte par un petit script en JavaScript, mais bon, après, je ne m'y connais pas assez pour vous en parler plus. Oui, bien sûr, hein, Xentir, toute la mémoire est effectivement, du coup, potentiellement vulnérable. Attention, ne pas tomber dans le sensationnalisme non plus et les peurs paniques. On verra. Peut-être qu'il y a des raisons de paniquer. Intel nous dit non, c'est pas la peine de paniquer. Le problème est sérieux, mais il n'est pas... Pour beaucoup d'utilisateurs, il n'est pas si sérieux que ça. Enfin, voilà. On verra. On verra. Affaire à suivre, en tout cas. Vincent, on vient d'en parler du ralenti des ordinateurs. A priori, ça dépend de l'utilisation de ton ordinateur. C'est surtout les serveurs qui auraient des problèmes de ralentissement. Pour les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, Intel nous dit non, ça sera de l'ordre de entre 1 et 5% peut-être de ralentissement, mais pas si gros que ça, quoi. Non, c'est peut-être pas le moment d'acheter des actions Intel. Il faut attendre qu'elles baissent. Allez, on continue. Justement, pour parler un petit peu de processeurs, on va parler cette fois de GoPro et de GoPro spécialisé. On va parler des capteurs. Un excellent article des Numériques. Ce qui nous explique comment les capteurs photo ont sauvé Sony. Sony, effectivement, vous le savez peut-être pas, mais Sony est devenu archi-leader dans le marché des capteurs photo. Capteurs photo, c'est cette pièce, c'est qu'on met dans les smartphones, dans les appareils photo, qui va être la surface sensible numérique de votre appareil photo. Merci Amanda pour ton super chat, qui va être la surface sensible de votre appareil photo numérique. En gros, c'est la péloche numérique de votre appareil photo. Et aujourd'hui, il faut savoir quand même que Sony a 42% du marché des capteurs photo et que Sony vend ses capteurs photo à absolument tout le monde. Même Canon, qui était un des derniers fabricants de photos à faire encore des capteurs maison, a commencé à acheter du Sony, notamment pour sa gamme de compact expert, les processeurs 1 pouce de Sony. Donc tout le monde, que ça soit les iPhone, que ça soit les Samsung, les Galaxy, que ça soit les Nikon, que ça soit les Panasonic, que ça soit tout ce qui est appareil photo aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une gamme qui échappe, utilise des capteurs Sony. Et mine de rien, ça a été un changement culturel énorme chez Sony. Red, je crois, il faudrait, je suis pas sûr Red, je suis pas certain pour Red. Ça serait à vérifier. En tout cas, Sony, effectivement, ça a été une révolution culturelle pour eux parce que ça les a. La culture chez Sony jusque-là, c'était si on met au point une technologie, on l'exploite en interne et on ne la partage pas avec nos petits camarades. Le dernier Nikon, mais Nikon, c'est du Sony depuis très très longtemps, hein, Romain. Nikon, je ne sais même pas s'ils font, des capteurs, même pour leur entrée de gamme. Je ne pense pas qu'ils fabriquent eux-mêmes des capteurs, hein, Nikon. Où est-ce que j'en étais? Oui, tout ça pour dire gros changement culturel quand même chez Sony, qui les a fait s'ouvrir finalement aux autres et vendre leur technologie aux autres fabricants. Ça leur a réussi, hein, parce qu'aujourd'hui, rien que les capteurs photo rapportent 5,6 milliards de dollars pour une année fiscale à Sony. C'est pas de la petite monnaie, hein, c'est de la big money. Et en plus, comme le marché des smartphones avec les doubles capteurs, ben, s'est mis à doubler les capteurs, 2016-2017 a été une excellente année pour la section capteurs de chez Sony. Néanmoins, l'avenir s'annonce déjà un petit peu plus sombre, parce que d'abord, un certain nombre de constructeurs, que Samsung en tête, cherchent maintenant à squeezer un petit peu leurs fournisseurs, comme Apple cherche à squeezer Sony sur les écrans. Apple cherche à squeezer Samsung pour ses écrans OLED. Samsung va chercher à squeezer Sony pour ses capteurs photo. Donc Samsung développe déjà ses propres capteurs photo. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas les performances des capteurs photo de Sony. Mais les choses sont en train de se renforcer du côté Samsung. Apple, a priori, ne travaille pas sur des capteurs photo. Donc, je pense qu'ils les achèteront toujours. Mais s'ils ont plusieurs interlocuteurs, ils pourront négocier à qui ils achètent le capteur du prochain iPhone. Le problème, c'est que le marché des smartphones est un marché dont la croissance est maintenant devenue lente. C'est un marché mûr, avec une croissance d'un ou 2% par an. Ce n'est pas gigantesque. Donc, il va falloir, pour la section capteurs photo de chez Sony, trouver d'autres marchés. L'industrie de la télésurveillance et des voitures autonomes qui seront bardées de capteurs et de capteurs visuels sont probablement les marchés d'avenir pour cette section-là. Mais je vous invite à aller lire quand même l'article des numériques. C'est assez intéressant. Sur effectivement comment les capteurs photo ont sauvé Sony. Et je vous rappelle qu'un capteur photo, dans un appareil photo, c'est une des trois grands piliers sur lesquels on peut juger de la qualité d'un appareil photo, mais ce n'est pas le seul. C'est pour ça que les gens me disent « Oui, mais l'appareil photo, c'est un Sony. » Non. Les ingénieurs, par exemple, de chez Apple ou Samsung, tout le traitement électronique de l'image, c'est eux qui le font. C'est pas Sony. Sony ne vend que le hardware du capteur. Mais après, il y a tout le développement. Et ça, c'est quand même les ingénieurs des différentes marques. Bref. Non, parce que je lisais un article où le mec disait « Si vos photos à iPhone sont si bonnes, c'est grâce à Sony. » En partie. Même le RAW. Hein. Même le RAW, il y a un traitement électronique du signal qui est quand même fait. Il est plus ou moins minime, mais il est quand même fait. En gros. Le capteur du D850 de Nikon, israélo-japonais, Tower Jazz. Ah ouais. Non, c'est un Sony qu'il y a dedans. Je crois, hein, bon, à vérifier. À vérifier, à vérifier. Bah, je vérifierai. Je vérifierai. C'est le même que chez Leica. D'accord, ok. Peut-être alors. Sony s'est mué en une marque B2B. Bah, la plupart, hein, tu sais, à part globalement dans les grandes marques, il n'y a que Apple qui ne vend pas aux autres ces technologies et qui achète par contre beaucoup de technologies aux autres. Mais tous les autres, que ce soit Samsung, que ce soit LG, que ce soit Sony, vendent en fait leurs technologies aux autres. Hein. Stéphane Couchot est parmi nous. Ah, et nuit blanche en plein montage. Heureusement qu'il y a les nuits de montage de Stéphane, des Frenchies, parce que comme ça, il nous rend visite. Eh bien, écoute, on va essayer d'injecter un petit peu de caféine dans ton matin. C'est Electronic and Technology Tower Jazz Build the Image Sensor that Nikon partially designed. D'accord, ok, je ne savais pas. Je pensais que c'était quand même un Sony qui avait dans le D850. Mais si tu me dis que c'est un Tower Jazz, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, eh bien, écoute, tant mieux. Nikon diversifie. Allez, on continue. On va parler du discours haineux. Les réseaux sociaux risquent 50 millions d'euros d'amende en Allemagne. On le sent hein, dans les pays européens, d'ailleurs dans tous les pays du monde. Ça y est, les lois commencent à arriver. En tout cas, dans les pays où les discours haineux sont sérieusement censurés, comme la France, hein, puisque c'est complètement hors la loi de prôner un discours haineux, de le tenir et de le prôner. Les Allemands nous ont devancé. À partir du 1er janvier 2018, une loi allemande contre les discours haineux rentre en vigueur. Les réseaux sociaux de plus de 2 millions d'utilisateurs, comme Facebook et Twitter, s'exposent désormais à une amende pouvant atteindre 50 millions d'euros s'ils ne suppriment pas ces contenus sous les 24 heures. Donc c'est strict hein, quand même. 24 heures, c'est court. Je sais qu'à notre époque où tout est instantané, 24 heures, c'est presque l'émergence, la vie et la mort d'une information sur Internet. Mais 24 heures, pour une entreprise, c'est un peu chaud quand même pour réagir. Effectivement, l'Allemagne, vous savez que les lois justement anti-nazis, promotion de l'UVG, sont assez dures en Allemagne. On peut se comprendre avec leur histoire. 24 heures, c'est presque le lendemain. Ouais, à peine, fou. Donc, cette loi, effectivement, qui paraît bien, puisque on se dit, en tout cas pour nous, utilisateurs, supprimer tout ce qui est interdit, l'appel à la violence, les insultes, les propagandes terroristes, ça serait bien, effectivement, que ça soit contrôlé plus rapidement, qui est moins de bad buzz comme on a eu en 2017 avec des affaires qui traînent. Mais ceux qui s'inquiètent, c'est... je cherche leur nom. Reporters sans frontières, voilà. Reporters sans frontières, eux s'inquiètent. Parce qu'ils disent que ça pourrait engendrer des censures préventives de la part des réseaux sociaux, qui ne veulent pas s'exposer à des amendes de 50 millions d'euros, et de faire de la censure préventive et peut-être un petit peu trop stricte. Je sais que, par exemple, il y a certains dans la chatroom qui disent « Ouais, la chatroom, maintenant, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, on se prend de la censure. » Il y a un truc que vous ne réalisez peut-être pas sur une chatroom, c'est que nous, on est responsable de ce que vous dites dans une chatroom. Et ça, n'importe qui tient un forum, qui tient un site web, qui tient une... On est, dans une certaine mesure, responsable des choses que vous dites dans les chatrooms. Donc, Si on a une quiche qui vient dans la chatroom nous dire n'importe quoi, prenez son parti néo-nazi, machin, qu'on ne réagit pas, on peut effectivement être aussi condamné, et plus que lui, quelque part. Donc, ça oblige effectivement n'importe qui produit du contenu et qui héberge finalement votre contenu qui est la chatroom, à prendre une part de responsabilité. Et donc, eux, ils s'inquiètent effectivement Reporters sans frontières en disant « La loi ferait peser sur les réseaux sociaux la charge de déterminer, dans un délai très court, ce qui relève de l'un ou de l'autre d'agir en conséquence. Reporters sans frontières craint donc que cette loi mène à des dérives et à la multiplication de cas de censure, dans la mesure où les réseaux sociaux pourraient tenter de supprimer plus de contenu pour payer moins d'amendes, ce qui est bien entendu incompatible avec les textes internationaux en matière de droits de l'homme. » On en revient au problème YouTube dont je parlais en début d'émission. C'est bien beau de dire « Ah ben il faut supprimer tout le contenu con ». Oui, mais mon con, c'est qui détermine qu'est-ce que c'est qu'un contenu con ? Et le problème, c'est qu'on a vite fait de mettre le crantage trop haut pour ne pas prendre de risques. Effectivement, les réseaux sociaux, s'ils mettent le crantage, il faut qu'on vire tout le contenu malaisant et dangereux et appel à la haine. Tout le problème, c'est que c'est les réseaux sociaux qui déterminent derrière ce que c'est qu'un discours haineux. Pas facile à gérer, effectivement. Pas facile à gérer tout ça. Bref. La gestion d'Internet et du contenu Internet, ça va être une grosse problématique pour ces plateformes, effectivement, dans les 5 ans à venir. Allez, je continue dans les articles. Je suis désolé, mais il faut que j'accélère un petit peu. Je vais accélérer. Petite news, mais c'est quand même une news assez importante. Spotify serait en train de préparer son IPO. IPO, c'est son entrée en bourse. On en parle depuis pas mal d'années. Donc la prochaine grosse rentrée en bourse risque d'être celle de Spotify. Spotify, effectivement, qui est allé à reculons. On voit pas mal, effectivement, d'entreprises tech qui sont assez réticentes à rentrer en bourse, hein, on l'a vu avec Uber, on l'a vu avec d'autres sociétés, elles freinent un peu des cas de fer, elles veulent rentrer en bourse, mais un peu le plus tard possible. Facebook, à son époque, n'avait pas accéléré pour rentrer en bourse. Donc, c'est effectivement un passage difficile pour ces entreprises. Obligatoire, hein, dans certains cas, et puis généralement, c'est quand même ce qu'une entreprise doit faire dans son histoire. Je ne vous expliquerai pas les tenants et les aboutissants pourquoi une entreprise est plus ou moins obligée à partir d'un certain moment à rentrer en bourse. Mais pour les modèles économiques de nos jours, de ces entreprises qui vont avoir tendance à brûler du cash beaucoup plus vite qu'elles n'en font pendant leurs premières années, le freinage de l'entrée en bourse est presque devenu un sport. Donc, intéressant à suivre. Spotify, on sait qu'ils sont très puissants. On sait aussi qu'ils ont une certaine vulnérabilité parce que ils sentent quand même dans leur nuque le souffle chaud de la concurrence, que ça soit Apple Music, que ça soit Google dans une certaine mesure, mais avec YouTube Music, etc. Le problème de Spotify, je dirais, après vous faites ce que vous voulez de votre argent s'il rentre en bourse, hein. Je vous fais une analyse de la société. Le problème de Spotify, c'est qu'ils ne sont pas diversifiés. Ils sont que dans ce business-là. Donc, si ce business-là a un problème, ils sont dans la merde. Tu dis ça à un pro Apple Music. Ouais. Bref. On verra, mais en tout cas, les rumeurs ont l'air de se confirmer que Spotify sera la prochaine entrée, grosse entrée en bourse pour le monde de la tech. Ils ne gagnent pas d'argent. Je crois, alors je ne sais pas, je n'ai pas analysé leurs chiffres, hein, mais je crois que Spotify est devenu rentable. Mais de là à dégager vraiment du profit, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. faut en avoir dans le pantalon pour pouvoir faire mumuse avec la bourse. Ah, eh ouais. Eh ouais, faut pas choper les boules. Allez, avant-dernière news, effectivement, au cas où vous n'auriez pas suivi, c'est dingue d'ailleurs, c'était très marrant de voir comment Google a refilé. Limite, Google donnait des Google Home Mini. C'était à des prix tellement dérisoires et j'ai vu plein d'opérations où effectivement les Google Home Mini étaient presque donnés. Il y a eu plein d'opérations promo. J'ai un ami, il a acheté une machine à laver, je crois, et on lui a offert une Google Home Mini. Tout ça pour dire que Amazon et Google ont vendu tellement pas cher leur haut-parleur intelligence Noël qu'ils seraient dans de la perte d'argent. C'est-à-dire qu'ils produisent à perte ces produits-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ils essayent de barrer la route le plus vite possible à l'arrivée, d'ailleurs retardée, c'est pas par hasard, l'arrivée des haut-parleurs intelligents de chez Apple, qui probablement seront vendus très très cher, parce que Apple va certainement pas les offrir comme des porte-clés, hein. C'est pas dans leur politique. On sent que le retard que prend Apple, à mon avis, c'est pas tant un retard de production. La vente à perte n'est pas interdite. Alors, c'est un petit peu compliqué. Si, c'est interdit. Mais on va dire que tu peux avoir des marges extrêmement faibles. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas vraiment une vente à perte pour Amazon. Par exemple, je prends le cas d'Amazon. Ils peuvent vendre une enceinte très peu chère et en faisant passer que ça contribue au business à côté parce que les gens achètent sur Amazon. Donc, quelque part, ils ne font pas de la vente à perte. Quand on parle de vente à perte, c'est juste sur le produit lui-même. Tu sais, toutes ces entreprises-là, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans. C'est une anecdote, mais vous verrez, c'est pertinent. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que publicitaire pour la marque Nespresso. Vous connaissez les capsules et tout ça. Ce que disaient au début de Nespresso, les gens de chez Nespresso, ils disaient, si la loi nous le permettait, on donnerait nos machines à café. Et un fabricant d'imprimantes, il ferait pareil. Et Amazon et Google, si la loi le permettait, ils les donneraient, ces enceintes. Parce que le business, il n'est pas dans la vente des haut-parleurs, des enceintes connectées. Il est dans le boulot derrière. Dans le cas de Nespresso, les capsules, dans le cas des imprimantes, les cartouches, et dans le cas de Google et Amazon, tout le business que ça peut générer. Donc, après, la loi t'interdit de donner ces produits-là, parce que ça serait juste... Quelque part, si vous creusez, vous comprenez tout le génie de Google. Google, sans donner des produits physiques, nous a offert des services gratuits. Un truc de géolocalisation qui te donne la route, qui dirige ta bagnole. Un mail où tu peux stocker des années de mails. Le nombre de services gratuits que nous ont donné Google, quelle générosité! Franchement, Google œuvre pour nous et pour notre plaisir. Eh bien, nous, non. Parce que si vous voulez dominer un marché, il n'y a rien de mieux que de donner les produits aux gens. Pour le physique, c'est interdit de donner des produits aux gens, mais on n'avait pas prévu qu'une société arriverait à le faire avec autant de brio dans les services dématérialisés. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça a permis à Google d'échapper à toutes les lois anti-monopole, puisque dans l'absolu, ils ne nous vendent rien directement. Vous comprenez pourquoi ces haut-parleurs sont à des prix aussi bas. Et que ça va être compliqué pour Apple, parce que Apple arrive avec un produit qui, lui, ne va pas du tout être basé sur ces business-là. Donc tout le monde va dire « Oh !» Mais le haut-parleur d'Apple, il est beaucoup trop cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple ne va pas vendre, eux, des trucs. Si, alors Apple Music, dans une certaine mesure. Donc ils vont quand même, ça favorise la vente de leurs services. Mais ils n'ont pas tout Amazon derrière. Ou ils n'ont pas toute la pub derrière, comme Google. Et en plus, Apple veut positionnement son truc comme « Nous, on protège votre vie privée ». Ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir un haut-parleur connecté qui fasse beaucoup de collecte de données, parce que sinon ils se discréditent. Comme aujourd'hui le cheval de bataille d'Apple, et je pense dans les années à venir ça va être de plus en plus le cheval de bataille d'Apple, c'est de dire Oui, nous, Siri marche moins bien. Nos produits sont plus chers. L'écosystème est plus fermé. Mais nous, on protège vos données. C'est-à-dire, on ne les vend pas. On ne fait pas de business avec vos données. On en collecte pour améliorer nos produits. Mais toutes les données personnelles sont gardées sur le produit physiquement, ne sont envoyées que on va dire, des grandes extrapolations statistiques et anonymisées. Donc, on verra bien comment ça va se passer, mais je pense que ça va être difficile. Oui, mais tu sais, les Apple addicts, c'est un tout petit marché, contrairement à ce qu'on croit. Et ça va, tu m'offres un merveilleux enchaînement pour mon dernier article. Les gens qui disent, ouais, mais les iPhones, ça se vendra toujours parce que de toute façon, les Apple addicts achèteront de toute façon leur iPhone parce qu'ils sont aveuglés, c'est des gros pigeons. Faut être réaliste, le mass market ne sont pas des gens qui font particulièrement attention à ça et qui sont pas des gens qui achètent du Apple parce que c'est du Apple. Il y a un nombre conséquent de fanboys qui donnent le la du marché, mais le gros mass market pour ces produits n'est absolument pas de toute façon dans nos sphères de techos avec nos fanboys. Nous, on est même pas 3% du marché. On est 3% du marché. Non, c'est vous qui êtes naïf envers Apple. Vous croyez que c'est nous, les technophiles, qui faisons et défaisons les marchés de la tech. À la limite, on est influenceurs des marchés, mais pas tant que ça. Regardez le nombre de produits que la technosphère a adorés et qui se sont complètement plantés. Et c'est ce qu'Apple a très bien compris depuis pas mal d'années. Ils ne cherchent plus du tout à vendre des produits à la technosphère. Ils cherchent à vendre des produits au vrai mass market. Alors, ce qui est vrai, c'est que le vrai mass market va acheter bêtement des iPhones parce qu'on leur a dit que les iPhones étaient mieux que les autres. Donc, le discours qui est passé par les fanboys de la technosphère ruisselle sur le mass market. Le mass market achète Apple parce qu'on leur dit que Apple, c'est Apple. C'est là où c'est. Mais le mass market peut très facilement switcher. Et c'est ce que Samsung a très bien compris. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à devenir très puissants dans le marché des smartphones, Samsung. Parce que quand vous le regardez, le mass market est aussi très, 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 très sensible à un autre argument, c'est au prix. Donc oui, vous pouvez dire le mass market achète Apple parce que c'est Apple, mais il y a une grosse partie du mass market qui achète au meilleur prix son smartphone. Donc il y a plusieurs tendances dans le mass market. Bref, tout ça pour terminer effectivement avec le dernier article, on a les chiffres de Fleury, en fait c'est Yahoo, c'est un système d'audit effectivement des ventes, qui dit que 44% des activations de smartphones pendant les fêtes concernaient des terminaux à la pomme. Donc effectivement, 44% d'activation pendant la période de fête de smartphones, c'était des iPhones contre 26% pour Samsung. Alors on pourrait se dire, ah ben Apple a finalement réussi son coup avec l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Non, c'est un petit peu compliqué, plus compliqué que ça. Effectivement, 15% de ces 44% d'activation, c'est l'iPhone 7. C'est-à-dire qu'Apple a très bien compris. Qu'Apple n'a pas tant vendu que ça. A priori, l'iPhone 10 représenterait quand même 14,7%, c'est pas mal. Et l'iPhone 6, 14,9%. En gros, il y a presque un équilibre, c'est marrant, entre l'iPhone 7, l'iPhone 10 et l'iPhone 6. Le 8 ne représenterait que 8,7% des ventes. C'est marrant parce que quand j'avais fait ma vidéo, qui marche très très bien d'ailleurs, la vidéo avec un iPhone à moins de 200 €, où je parle de l'ensemble des iPhones, et qu'il y a aujourd'hui des iPhones pas chers, c'est qu'en fait Apple a créé une vraie gamme de produits quand on y réfléchit. Simplement, ils ne leur donnent pas des nouveaux noms chaque année. C'est à la fois, moi je trouve que c'est un défaut marketing d'Apple. qu'ils ont commencé à contrecarrer avec l'iPhone SE, j'espère qu'ils iront plus loin dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il existe une vraie gamme Apple. Il y a des iPhones à moins de 300 euros qui marchent très bien aujourd'hui, comme il y a des Android à 300 euros qui marchent très bien aujourd'hui. Il ne faut juste pas en attendre trop d'un iPhone à 300 euros par rapport à un iPhone à 1000 euros. C'est que, regardez le nombre d'iPhones que Apple a gardé en boutique cette année. C'est assez hallucinant. Et donc, on voit que ça paye. Les gens achètent. Alors, là, ils achètent de l'iPhone 6. Mais je pense qu'il y a, je pense que dans les 14% de l'iPhone 6, l'iPhone 6S doit être compris. Mais moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo, je pense qu'un des meilleurs achats, si vous voulez absolument un iPhone, parce que bien évidemment, un des meilleurs achats, c'est d'acheter de l'Android si vous avez un budget limité. Ça, je vous le dis, je vous le martèle. Contrairement à ce que disent les gens, je ne suis pas un Apple fanboy au point de dire « achetez à tout prix un iPhone ». Si vous avez un budget, on va dire, en dessous de 500, voire de 600 euros, achetez de l'Android. Vous aurez un bien meilleur rapport qualité-prix avec des budgets entre 300 et 600 euros sur Android que sur iPhone. Ça, c'est clair. Mais si quand même vous voulez un iPhone, pour moult raisons, hein. Les gens, voilà, ils aiment bien avoir un iPhone. Il y a de l'iPhone pas trop cher aujourd'hui, si tu regardes bien. Enfin, pas trop cher, en prix Apple, hein, j'entends bien. Acheter un portable avec prise de jack. Non, très honnêtement, alors moi, je vous le dis, hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui branche des micros et des périphériques sur mes smartphones. La prise jack, je m'en passe très bien maintenant. Très, très bien. Ben, le Pixel 2, tu peux le conseiller, Manuel, mais le problème, c'est que tant que Google ne le propose pas en France, moi, je ne vais pas faire un test, par exemple, du Pixel 2 si Google ne le distribue pas en France. Hein. Ce n'est pas la peine. Je sais qu'on peut l'acheter, mais il faut passer par... Enfin, voilà, il n'est pas accessible au mass market, justement. Le système est... Et il n'est pas très compliqué, mais la plupart des gens ne vont pas faire ces efforts-là pour acheter un smartphone. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope de ce matin. J'ai beaucoup de retard. Je m'en excuse. Est-ce qu'il y a une question Platinium aujourd'hui? Je regarde. Samuel, y a-t-il une question Platinium aujourd'hui? A priori, non. Pas de question Platinium. Donc, on va passer directement au petit fac du matin. Si vous avez des questions à me poser, j'attends vos questions tout de suite. Je regarde. Que penses-tu de l'avenir de Snapchat ? Compliqué, compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué pour Snapchat. Ils ont encore ils ont des bons ingénieurs, ils ont des bonnes idées, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Je pense qu'en ouvrant Snapchat, en le rendant partageable sur d'autres plateformes, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Il faut voir. Mais ils peuvent aussi grave se planter. Hein. Aussi bien, on n'entendra même plus parler de Snapchat dans pas très très longtemps. On ne peut pas écouter de la musique en ARS sans prise jack. Oui, mais moi, ce n'est pas une priorité, Swan. Tu vois, c'est pour ça que je dis que la prise jack m'en passe très bien. C'est que la musique ARS, avec les oreilles que j'ai, de toute façon, ça ne me servira à rien. Les cours de photoshoot, non, ils ne se sont pas arrêtés. C'est juste que il a moins de temps, là, Tristan. Il a déménagé. C'est là que vous voyez quand même faire des vidéos en plus d'une activité à côté. Regardez Marion, regardez Tristan. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire des vidéos. Ça vous montre à quel point c'est quand même compliqué. Alors, attendez, je remonte un peu vos questions, mais elles vont trop vite. Dans quel cas tu utilises un Gorillapod ? Alors, mes Gorillapod, parce que maintenant j'en ai deux, c'est vraiment mon pied léger que j'amène quand je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'un trépied. J'ai quand même toujours un Gorillapod dans le sac. Je m'en sers beaucoup sur les gros tournages pour fixer la caméra B. un arbre à une chaise. Ça m'évite de devoir amener deux trépieds lourds. Et en vacances. C'est vrai qu'en vacances... Après, comme je ne fais pas de vlogging, je ne m'en sers pas façon Kazenestat du Gorillapod. Mais en vacances, je n'ai pas envie de m'encombrer avec un gros trépied. Donc, je prends mon Gorillapod. DxO Photolab ou Adobe Lightroom? Essaye DxO Photolab, hein, ils sont bons. C'est bon, hein, c'est bien ce qu'ils font. Mais je ne veux pas te donner un mauvais conseil. Le problème, c'est que Lightroom est un standard du marché. Donc, tu vois, tu vas trouver beaucoup plus de tutos sur Lightroom que sur DxO Photolab pour l'instant. Est-ce qu'il y a un appareil photo compact expert qui se recharge directement via USB-C? Oui, je ne voudrais pas te dire de conneries, mais il faut regarder du côté de chez Sony. Je crois qu'il y en a qui se rechargent comme ça. Airez arrive avec le Bluetooth 5. Oui, mais je crois qu'il ne le gère pas encore. Ah bah oui, Swan me le confirme. Des conseils pour se trouver bien quand on se prend en photo tout seul avec son smartphone. Alors, des conseils tout bêtes. J'en ferai une vidéo un jour, comment réussir ses selfies. Parce que mine de rien, c'est important. La lumière est super importante. C'est la lumière qui va vraiment faire ton selfie. Essaye aussi, parce que c'est toujours plus flatteur de se prendre en plongée, parce que ça va tirer un peu tes traits. Donc, il vaut mieux se mettre un peu en plongée. Alors, c'est pas toujours facile quand le monument est derrière, mais la contre-plongée, généralement, ça fait ressortir le double menton et ce genre de choses. Donc, ça peut être un conseil. Fais effectivement, alors, la lumière, faut pas forcément se mettre complètement face à la lumière parce que tu risques d'avoir l'ombre de ton appareil photo qui vient sur ta gueule. Donc, faut jouer, mais tu fais un petit trois quarts face. Un truc aussi pour dynamiser un selfie. C'est tout con, mais ne te mets pas face à ton appareil photo, les épaules parallèles à l'appareil photo. Une petite dynamique du corps comme ça, avec une épaule en avant, une épaule en arrière, ça tout de suite. Puis tu te penches un peu en avant, voilà, ça, tu tires le cou, ça c'est Tristan qui donnait ce genre de conseil. Ça peut être pas mal pour mieux réussir. Voilà. Et oui, le double menton, c'est quand on se prend en contre-plongeur, souvent un double menton. Le G7 en 2018, intéressant. Oui, c'est même l'appareil photo. Le meilleur rapport qualité-prix que je conseille en 2018, c'est le G7. Des tests des applications iPad, nouvelle direction de la chaîne. Non, c'est juste qu'on n'en faisait plus beaucoup, mais que là, c'est l'hiver et que j'ai du mal à aller faire des tournages dehors parce qu'il fait un peu trop froid et un peu trop mauvais. Donc, on va dire que c'est une saison propice à tester des applications. Le 100D, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les caractéristiques Canon. J'en sais rien. Honnêtement, l'autre jour, on m'a demandé le 200D. Je croyais que c'était un vieux modèle. Et en fait, c'est le nouveau modèle. Je n'ai pas vraiment d'avis. Tu sais, je ne les ai pas testés. Donc, je ne peux pas vraiment te dire pour le 100D. Je crois qu'il est pas mal. Mais probablement, comme tout Canon, un peu cher pour ce qu'il fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous quitte. Alors, la vitre de mon S8 est cassée. Changement obligatoire d'écran et pas que de la vitre pour les 300 euros. Vaut-il mieux acheter un nouveau S8 pour 500 euros? Ouais, je croyais qu'il y avait qu'Apple qui était très cher pour remplacer les écrans. Non, pour le S8, vaut-il... Toujours délicat. Ouais, il vaut peut-être mieux en racheter un, effectivement, à 200 euros près. Xbox One ou PS4 Pro, ça, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas un gamer. Donc, je ne saurais pas vous conseiller au niveau au niveau des consoles. Allez, je prends une dernière question et on s'arrête là. On se retrouve demain, vous inquiétez pas. iPhone 7 pour vidéo sur YouTube, oui. D'une manière générale, un smartphone suffit largement comme caméra pour YouTube, pour peu que tu t'éclaires bien et que tu aies un bon son. Et c'est une démonstration que je vais bientôt vous faire. Lunettes ou lentilles, ça dépend. Je peux porter les deux, moi. En ce moment, je suis plutôt lunettes. Le S9, je pense que ça ne va pas tarder, le Galaxy S9. Éclairage à recommander, on en reparle bientôt. Mais je te dis déjà une chose, lésine pas sur le prix de ton éclairage. Une de mes prochaines vidéos, j'ai déjà le titre. Enfin, titre temporaire, je sais pas comment le tourner. Mais c'est une vidéo où je vous montrerai qu'il vaut mieux dépenser 1 500, voire 2 000 euros en lumière que d'acheter une caméra à 2 000 euros pour améliorer votre image. Qu'on a une bien meilleure image sur un smartphone, même bas de gamme. Je vais prendre un bas de gamme et je vais me filmer avec de la lumière qui coûte à peu près 1 500 euros. Et vous verrez que j'ai une bien plus belle image qu'avec une lumière pourrie et mon GH5 qui vaut 2 000 euros. Donc ça va être mon conseil révolutionnaire 2018. Je vous avais déjà dit que le son, c'était plus important que l'image. Et en 2018, la lumière est plus importante que la caméra. Beaucoup plus importante que la caméra. Allez, sur ce, je vous quitte. À demain. Passez une bonne journée. Soyez sages, soyez bons, soyez forts. Et à demain. Ciao tout le monde.